Dans son enfance et dans sa jeunesse, il a appris à travailler de ses propres mains. Son métier, la confection des tentes, lui permettait de voyager avec juste quelques outils de travail et de s'installer n'importe où. Et puis jusqu'au milieu de sa vie, il était membre des pharisiens et un véritable étudiant de la Bible. Il pouvait citer abondamment la traduction grecque des Écritures. Peut-être vous l'avez déjà deviné, je vous parle de l'apôtre Paul, qui était nommé autrement Saül de Tarse. Paul apparaît pour la première fois dans le livre des Actes à la mort d'Étienne. À l'époque, il persécutait l'Église primitive du Nouveau Testament. Puis, alors qu'il continuait son chemin, quelque chose s'est produit qui allait changer sa vie. Reportons-nous aux Actes chapitre 9 pour lire cet événement très important dans la vie de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, à partir du verset 3, nous avons maintenant vraiment un chapitre qui décrit un événement et plusieurs choses en fait qui se passent pour produire, pour lancer, pour débuter ce nouveau chapitre dans la vie de l'apôtre Paul. Verset 3, « Comme il était en chemin et qu'il approchait à Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà un événement très miraculeux qui a lieu dans la vie de l'apôtre Paul. Il fut appelé dans cette façon célèbre maintenant sur la route de Damas. C'était dans la région d'où il venait. Et il devint fidèle serviteur de Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Galates, Paul donne quelques détails sur le début de la mission que le Seigneur lui a confiée. Lisons maintenant en Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Paul prend à cœur la prédication de l'Évangile aux nations. Et voici un résumé de ses propres paroles. Galates 1, verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, où j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Une conversion tellement miraculeuse a causé à les gens de glorifier Dieu parce que Dieu peut s'en servir de n'importe qui. De qui il choisit, n'est-ce pas? Donc, Paul parcourut ensuite l'Asie mineure, comme il l'a décrit, c'est la Turquie actuelle, et il annonçait le Christ. Et il établissait des églises et les enseignait. Nous en lisons plus en 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Paul discute son travail comme celui d'un architecte ou un bâtisseur, de quelqu'un qui pose un certain fondement ou un certain bâtiment. 1 Corinthiens 3 et le verset 10, il nous écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le vrai fondement, c'est bien Jésus-Christ, la pierre angulaire, mais Paul quand même avait compris son rôle de bâtir sur ce fondement, Jésus-Christ. Et puis, il avait même compris qu'après lui, il y aurait d'autres qui allaient bâtir également. Que chacun participait à bâtir l'Église de Dieu. Des êtres physiques, bien sûr, mais inspirés par Dieu. Donc, ces épîtres à ces congrégations dont il écrit ici, dont il parle ici, forment une grande partie du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. En fait, sur les 27 livres du Nouveau Testament, 13 sont attribués complètement à Paul. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous décrit quelque chose un peu plus détaillé sur comment ou qu'est-ce qu'il a vécu pendant cette période où il bâtissait. 2 Corinthiens 11. Ici, Paul a dressé une liste des épreuves et des difficultés qu'il avait traversées. 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 23. 2 Corinthiens 11 et le verset 23. Paul et Christ sont-ils ministres de Christ? Alors, je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc il a continué aussi. Mais voilà, Paul décrit dans plusieurs versets ici, son travail. Je continue avec un verset de plus, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc, il dresse une liste un peu les conditions de travail dans lesquelles il devait travailler pour poser ce fondement, pour bâtir dans cette région. Il allait toujours d'abord chez les Juifs pour commencer, mais après, et pendant cette période, après, il parlait aussi avec les gentils. Mais il commençait en trouvant, et c'était un peu stratégique aussi, la stratégie de Paul, c'était d'aller dans certains endroits où ils avaient des enclaves romains aussi, pour que ça commence à disperser, pour que l'évangile soit prêché d'une bonne façon. Donc, bien sûr, l'apôtre Paul, il y a eu des hauts énormes dans la vie de Paul, puis il y a eu des bas profonds. Après toute son activité intense, Paul a langui en prison pendant des années à Césarée et à Rome. Donc, quelqu'un qui a été tellement influentiel, tellement important sur le début de l'Église du Nouveau Testament, a été passé en prison pendant plusieurs années. En lisant les récits de la vie de Paul, nous devons nous demander à un moment donné, comment a-t-il fait? Comment a-t-il pu s'accrocher et endurer toutes ces choses? Si vous voulez, quel était le secret de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il lui a donné de la force alors qu'il a subi tant d'antagonisme et de persécution? Nous savons tous que Dieu était avec Paul par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, mais il y a-t-il quelque chose que Paul a fait qui lui a permis de vraiment exploiter, de saisir sur cette force et de l'utiliser efficacement pour prêcher l'Évangile? Quel est le secret de l'apôtre Paul? En fait, la réponse n'est pas vraiment un grand mystère, car Paul nous dit maintes fois comment il l'a fait. Je vous invite à considérer Galates 3:11, on ne va pas y reporter. Il dit « Le juste vivra par la foi ». L'une des Écritures où il nous révèle comment il a réussi à traverser toutes ces épreuves, c'est Galates 3:11, « Le juste vivra par la foi ». Aujourd'hui, examinons l'exemple de Paul sur la façon de vivre par la foi. Quel est le contexte de cette expression « Le juste vivra par la foi » Est-ce que Paul l'a inventé? Est-ce que c'est de son propre imagination? Ce doit avoir été l'une des citations préférées de Paul, car il l'utilise plus d'une fois dans ses épîtres. Bien sûr, dans Galates 3:11, il cite en fait un passage de l'Ancien Testament trouvé dans Habacuc 2 et le verset 4. Là, il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Et c'est un concept intéressant. Le juste vivra par sa foi. Et Paul dit, le juste vivra par la foi. Tout le monde, à un moment donné, devra, selon lui-même, vivre selon sa foi. Pas ma foi ou la foi de quelqu'un d'autre, la foi de mes parents, mais sa propre foi. Il ou elle va devoir prendre position sur sa foi, de faire des décisions, de prendre décisions. Non pas que nous n'ayons pas besoin de la foi du Christ en nous, mais chacun a aussi un rôle à jouer pour vivre par sa foi. Comment vivre par sa foi? Je voudrais citer Michée 6 et le verset 8. Michée 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans un sens, c'est une autre façon de dire, le juste vivra par sa foi. Pratiquons la justice, aimons la miséricorde, et marchons humblement avec Dieu. Ça, c'est le concept du juste qui vivra par sa foi. Mais c'est qui le juste, en fait? C'est qui le juste? Comment pratiquer la justice? Est-ce que c'est quelque chose que nous sommes capables de faire de soi? Qu'est-ce qui fait que nous soyons capables d'être justes? Voici une réponse assez simple. La justice, c'est la conformité à la loi et à la volonté de Dieu. C'est ça, en résumé, la justice. La justice, c'est ça, mais c'est plus que ça aussi. Le psaume 15, le verset 2, nous explique « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Celui qui marche dans l'intégrité. Le juste fait ce qui est droit. Donc le juste est défini aussi par ce qu'il fait. Pas seulement par ce qu'il croit. On peut croire à quelque chose sans le mettre en pratique. Sans le mettre en pratique réellement. Ça serait, d'après Jacques, une foi morte, n'est-ce pas? Croire, mais ne pas faire. Mais nous sommes censés d'avoir une foi vivante, une foi qui agit, n'est-ce pas? On peut être droit dans nos paroles si on va vivre juste par la foi. On va être droit dans nos attitudes, dans la pratique de nos relations avec autrui. Et c'est ça le fruit de la crainte de Dieu aussi, et du respect de Dieu, de la volonté de se soucier d'obéir à sa parole. Celle-ci est en effet notre guide et la lumière à nos pas. Ça éclaire la conscience. La vérité nous donne la possibilité d'obéir à Dieu. La compréhension de la volonté de Dieu est là, mais après, vivre par sa foi, ça veut dire on le met en pratique. On va connaître et on va agir. Donc cette droiture se remarque vite dans un monde qui est tellement entouré de mensonges et de manque de crédibilité, d'attaques, de violence. Donc ce sont comme des lumières, les exemples des justes qui vivent par la foi dans un monde ténébreux. Nous en avons discuté récemment. Le juste vivra par la foi fait le lien entre la droiture et la croyance ou la foi. Reportons-nous à l'évangile de Matthieu et le chapitre 9. Nous y trouvons un exemple très simple, très humble et très direct de comment c'est important de vivre par la foi. C'est un exemple de foi personnelle de quelques personnes qui ne sont pas nommées, mais qui ont une foi du cœur, une foi réelle. Matthieu a rapporté pour nous un moment où deux hommes aveugles sont venus à Jésus et lui ont demandé de les guérir. Matthieu 9, verset 27. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Très intéressant que eux, ils sont impliqués dans ce processus de guérison. Eux, ils ont leur part à jouer, si vous voulez. Leur foi réelle et sincère leur permettait de recevoir le don de la guérison. Ces deux hommes ont exercé leur foi vivante en s'approchant de Jésus-Christ, en lui demandant de les aider. Ils savaient que Jésus-Christ était capable de guérir. Mais est-ce que ces deux hommes ont été guéris à cause de leur droiture? Non, ils n'ont pas été guéris à cause de leur droiture. Ils étaient guéris à cause de leur foi. La simplicité de leur foi les permettait de recevoir le don de la guérison. L'expression « le juste vivra par la foi » se trouve également dans Hébreux chapitre 10. Versets 35 à 38, considérant Hébreux chapitre 10. Ça nous donne l'occasion de faire le tour de plusieurs passages importants liés à cette expression, à ce sujet que nous examinons aujourd'hui. Hébreux chapitre 10 et le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, frères et sœurs, nous cherchons quelque chose de beaucoup plus important qu'un guérison physique. Nous cherchons avec les deux mains, à saisir la vie éternelle que Dieu nous a offerte. Il nous a ouvert les yeux à comment procéder, à croître, à continuer, à persévérer. Tout est mentionné ici. Et c'est lui qui va donner la récompense. C'est lui qui va nous donner la possibilité d'être perfectionnés et de changer lors de son retour, le retour de Jésus-Christ. L'auteur ici d'Hébreu encourageait ceux dont la foi vacillait à s'accrocher, comme j'ai dit, les deux mains. Il l'a suivi dans le chapitre suivant avec des exemples de personnes fidèles. On parle aujourd'hui plus de l'apôtre Paul, qui est resté fidèle dans sa tâche, qui a enduré tellement de choses. Mais Paul n'était pas seul. Paul avait déjà compris les exemples ici également. Il avait déjà dans sa vie entendu et étudié les Écritures concernant ceux qui sont listés dans le chapitre 11 de Hébreux. Le chapitre, on appelle ça le chapitre de la foi, parce que ça donne d'abord la définition, une définition de la foi, et ça donne également plusieurs exemples de ceux qui ont vécu par la foi. Pour résumer, pour ne pas lire le chapitre entier, on résume Abraham, connu comme le père des fidèles, a exercé une foi vivante lorsqu'il a offert son fils Isaac. Moïse a exercé une foi vivante lorsqu'il a conduit les enfants d'Israël à travers la mer Rouge. Il aurait pu choisir une vie aisée en Égypte, mais ce n'était pas son choix. Ce n'est pas comme ça qu'il a fait. David a tué le géant philistin Goliath en exerçant une foi vivante avec juste quelques pierres, même pas l'épée, même pas des armures. Et c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Daniel a exercé une foi vivante lorsqu'il a refusé d'arrêter de prier malgré la peine de mort qui serait jetée dans la fossée des lions. Shadrach, Meshach et Abednego ont exercé une foi vivante lorsqu'ils ont refusé de se plier à l'image d'or du roi Nebuchadnezzar. Et ils ont ensuite fait face à la violence du feu en disant, même si Dieu n'intervient pas, on ne va pas s'abaisser devant votre idole. Donc tout ce qui précède ici est bien d'autres comme eux, dont certains sont énumérés dans ce chapitre 11, ont mis leur vie en danger parce qu'ils vivaient par la foi. Ils ne cherchaient pas juste une guérison physique ou une vie aisée physique, mais ce qu'ils cherchaient, c'était quelque chose qui serait bâti dans l'avenir, qui n'était même pas visible. Nous, on opère toujours ou presque toujours dans la vie quotidienne, on agit par ce que nous voyons, n'est-ce pas? On est très poussé par les yeux. C'est la saison des yeux qui nous oriente. Et si c'est quelque chose qui s'est présenté devant moi, je dois l'adresser, c'est devant moi. Mais la foi implique une compréhension de quelque chose que nous ne voyons pas avec nos yeux. Si nous lisons le verset 1, Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, moi, je trouve très intéressant que Jésus profite en Matthieu, et c'est marqué, Matthieu chapitre 9, que ces hommes étaient complètement aveuglés. Et eux, ils avaient la foi. Ils ne voyaient pas même celui qui les a guéris. Donc, vivre par la foi est la façon dont Paul a traversé toutes ces difficultés et ces épreuves. Et c'est ainsi que nous allons traverser toutes les nôtres, par vivre par la foi. Nous devons personnellement exercer la foi en Dieu pour nous aider, peu importe ce à quoi nous devons faire face dans cette vie. Mais comment vivre par la foi? Comment pouvons-nous avoir le genre de foi vivante qu'avec tous ces grands de la Bible. Comment pouvons-nous être comptés parmi ceux qui ont exercé une foi vivante? Est-ce qu'un jour, on pourrait écrire sur nous qu'on avait une foi, qu'on a vécu par une foi vivante? Je pense que oui. Je pense que nous sommes là, nous sommes capables de vivre dans une telle façon, une façon digne de cette vocation, comme Paul l'a fait. Il a employé le temps que Dieu lui a accordé dans sa vie pour servir l'Éternel. C'est ça, c'était un choix de l'apôtre Paul. Certes, quelqu'un qui entend la voix du Seigneur et qui entend les instructions, qui s'est mis aveugle, justement, qui ne voit plus rien pendant un certain temps. Et puis après, il est lancé, il est inspiré, il est instruit, il est envoyé. Et puis, malgré les souffrances, il continue jusqu'au bout. Donc, c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui a vécu par la foi. Nous avons une compréhension de la vérité grâce à Dieu qui nous a appelés, Dieu de Père qui nous a appelés. Nous comprenons la nécessité de se repentir et de rester fidèles à Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec le temps devant nous? Nous avons devant nous un défi de vivre par la foi dans nos croyances et dans nos actions. Nous devons construire notre vie sur notre foi et endurer nos épreuves et nos afflictions par notre foi. La foi est un don de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Donc notre foi a un fondement solide. Cela se résume enfin à ce qui vit dans notre cœur et notre esprit en termes de notre ensemble de croyances et de valeurs auxquelles nous devons nous accrocher et sur lesquelles nous construisons nos vies. L'un des avantages de traverser des épreuves, c'est qu'elles renforcent notre foi. Les épreuves sont censées de renforcer notre foi, non pas de la diminuer. Donc, Romains chapitre 1, encore un exemple, une citation de Paul ici, concernant le juste vivra par la foi. Ça donne encore un angle différent, un contexte légèrement différent. Romains 1, chapitre 16 à 17, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est comme ça, c'est par l'Évangile, c'est par la vérité, c'est par la parole de Dieu que nous comprenons ce que c'est la justice, ce que c'est la bonté, ce que c'est la vérité. Et le juste vivra par la foi en ces choses, par ses croyances, par son comportement. Paul a décrit à quel point le glorieux évangile de Christ est une chose très puissante. Il a poursuivi en disant qu'il y a de la puissance dans cet évangile pour conduire au salut. De notre part, nous devons aussi vivre selon ce que Jésus-Christ a enseigné dans ce message. Voilà à quoi ressemble la foi vivante. La foi vivante, c'est vivre notre vie comme Jésus-Christ a vécu sa vie. C'est obéir et faire les choses qu'il a faites. La foi vivante comprend ce que nous faisons, ainsi que ce que nous croyons, à moins que la croyance d'une personne ne soit soutenue par de bonnes œuvres. Jacques dit que sa foi est morte. Ça vient de Jacques chapitre 2, verset 14, pour une référence. Il explique « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. Cette foi peut-elle le sauver? Il est réconfortant de savoir que si nous faisons ce que Dieu nous dit, si nous comprenons bien ce qu'il nous explique, notre foi augmentera aussi. Ce n'est pas à nous de chercher à l'augmenter par nos propres efforts. Il suffit que nous fassions ce que Dieu nous dit de faire, que ce soit dans une situation d'abondance ou une situation de manque et d'épreuve. Cela ne veut pas dire qu'on puisse mériter le salut par nos bonnes œuvres. La vie éternelle est un don divin et non quelque chose qu'on puisse mériter. Néanmoins, Dieu s'attend de nous à voir des œuvres dans nos vies, de pratiquer cette foi, de la continuer, de faire en sorte que c'est une foi vivante. Et donc, nous avons besoin de pratiquer ce que nous avons compris. Nous avons vu en Romains chapitre 1 que la foi est liée à l'Évangile qui révèle ce que c'est la justice de Dieu. Et puis Jacques nous dit, pour que ça soit vivante, la foi. Et puis Jacques continue dans Jacques 2, verset 15. Il explique, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassiedziez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire du corps, à quoi cela sert-il? Donc, on est là pour les uns pour les autres. C'est une autre façon de faire en sorte que notre foi soit vivante. C'est d'intervenir pour nos frères et sœurs. C'est de rendre service à ceux qui sont appelés, ceux qui sont membres de l'Église. Et puis aussi, bien sûr, nous sommes censés d'aimer notre prochain aussi. Ce n'est pas limité à l'Église, mais ça commence là, d'autant plus ceux qui sont membres de l'Église. Donc, nous avons besoin d'obéir et nous avons besoin d'avoir une sorte de pensée pour les autres. Parce que c'est ça le raisonnement, c'est ça la pensée de Jésus-Christ, c'est ça imiter Christ. Si vous lisez les évangiles, vous allez lire combien de fois il intervient pour ceux comme les aveugles qui se sont approchés à lui pour dire « Est-ce que tu peux nous guérir, Seigneur ?» Et plusieurs fois, il intervient pour eux. Nous devons développer cette même réflexe de rendre service les uns pour les autres. C'est ça. Dieu nous donne plusieurs possibilités, plusieurs occasions de mettre en pratique les enseignements de la Bible. Il nous donne des possibilités. Il nous donne chaque jour la possibilité. Et c'est pour ça aussi, c'est une raison pour laquelle nous sommes appelés de faire partie d'une assemblée. Parce que ça nous donne d'autant plus d'opportunités de croître, de mettre en pratique cette foi vivante. Donc, Jacques nous explique qu'il faut montrer la foi par les œuvres. Il faut qu'on mette en place, qu'on mette en action ce que nous croyons. Donc, notre foi, chaque jour, c'est la mise à l'épreuve de bien beaucoup de choses. Par exemple, la Bible nous dit que même se plaindre, ce n'est pas une bonne chose. C'est un domaine où notre foi est mise à l'épreuve. Et quand nous obéissons au commandement de ne pas nous plaindre, notre obéissance démontre notre foi. Elle prouve que nous croyons que la voie divine donne des résultats, que nous sommes capables d'être patients, d'attendre l'intervention de Dieu. Considérons la foi parfaite mentionnée par Jacques chapitre 2 et le verset 22. Jacques chapitre 2 et le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. On parle d'Abraham ici. Il parle d'Abraham comme le père de la foi. au verset 21, lorsqu'il offrit son fils Isaac. Et puis, il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et c'est parfaite, c'est un perfectionnement, c'est un achèvement de quelque chose d'important. Et donc, c'est ça un très bon exemple de mettre en pratique la foi. L'apôtre Paul nous dit, en outre, que la foi vient en entendant et en entendant par la parole de Dieu. Ça, c'est de Romains chapitre 10. Et puis, Dieu attend de nous que nous étudions sa parole, que nous soyons des, comme Paul était, des étudiants des Écritures, des étudiants de la Bible. Les disciples de Jésus-Christ sont comme des élèves, mais aussi plus que des élèves, parce que les élèves doivent imiter leur maître quand on est disciple. Notre foi peut être augmentée en étudiant les exemples bibliques de ceux qui ont vécu par la foi. De plus, la parole de Dieu révélera d'autres domaines de notre vie que nous devrions changer si nous voulons vivre notre vie comme Jésus-Christ. Nous devrions nous lancer dans une étude de la vie de Christ, telle qu'elle est rapportée dans les évangiles. Dans 1 Pierre 2, on n'est pas loin avec Jacques, 1 Pierre 2, verset 21, Pierre explique ici, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On parle souvent de cette image côté au bord de la mer et les traces de pieds dans le sable et l'idée de suivre des traces de pieds qui sont laissées pour nous. Et on parle de cette façon de suivre Jésus-Christ, de vraiment imager cette idée de marcher comme lui a marché, de prendre cette belle voie, cette voie qui mène à la vie éternelle, de ne pas faire notre propre cheminement, mais de suivre sa voie. Si nous en imbibons pas régulièrement de ce que déclare la Bible, nous n'allons pas avoir la possibilité de comprendre ces choses davantage. Et il va nous manquer la foi. Par contre, plus nous étudions la Bible, moins nous doutons. Quand nous réfléchissons profondément à ce que nous y lisons, plus cela devient partie intégrante de nos vies. Dans le psaume 119, il explique que nous sommes censés de cacher ou de mettre la parole dans nos cœurs, de la garder jusqu'au niveau du cœur. Quand nous nous relâchons et n'étudions pas la Bible, son contenu commence à nous échapper et ça fait moins l'objet de nos pensées. Et puis, les promesses de Dieu ne sont pas des choses que nous considérons assez souvent. Ce sont des tendances humaines. Nous sommes ainsi faits. Plus, par contre, plus nous nous familiarisons avec la Bible et plus nous nous familiarisons avec ce que Dieu a fait et va faire, plus notre foi augmente. Les promesses de Dieu sont solides. L'étude biblique nous enseigne que Dieu tient ses promesses. Nous avons les exemples du passé et nous avons les exemples de notre propre vie actuelle. Combien de fois a Dieu intervenu pour nous? Notre foi doit s'appuyer sur les promesses que Dieu a faites dans la Bible. Et nous devons nous assurer que nous comprenons bien ces promesses. Ça concerne notre avenir. Ça concerne notre vie actuelle, la préparation pour l'avenir. Nous devons nous assurer que nous ne supposons pas qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas promis. Il faut comprendre ses promesses dans le contexte dans lequel il les a faits, lequel est celui de son plan et de ses projets pour nous. Ce sont des promesses très importantes. Beaucoup de promesses très claires dans la Bible. Dieu pourvoit à tous nos besoins physiques et spirituels. Dieu rendra parfaite en nous l'œuvre spirituelle qu'il a commencée. Dieu nous accordera la sagesse que nous lui demandons. Dieu nous ne délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu nous donnera la paix d'esprit. Dieu pardonnera nos péchés lorsque nous repentons. Dieu fera en sorte que nous croissions et devenions comme Christ. Il ne s'agit là que quelques-unes des promesses claires et précises que Dieu a faites. Quand nous gardons ces promesses à l'esprit, nous obtenons une nouvelle perspective sur la vie et sur quelque chose qui fait partie de la vie, la souffrance. On commence à voir que la souffrance aura fin, que la souffrance, c'est pour un temps donné. Mais la vie éternelle, ça dépasse le temps de la souffrance. C'est ça comprendre le plan du salut. C'est ça comprendre la parole de Dieu, la vérité qui est révélée pour nous. Et Paul, celui que nous étudions aujourd'hui un peu, Paul explique dans Romains chapitre 8, un chapitre aussi fameux, célèbre, versets 18 et 19, il nous renforce cette perspective sur la durée de la souffrance, que les souffrances auront fin. Il explique, Romains 8, chapitre 8 et le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Tout simple. Une expression qui nous encourage tellement. La possibilité de faire partie de la famille de Dieu. D'être des fils de Dieu. Lors des fils avec un corps spirituel. Lors du retour de Jésus-Christ. Donc, demandons à Dieu d'augmenter notre foi et de construire en nous son caractère. Est-ce que c'est quelque chose que nous demandons à Dieu de le faire? Quand nous passons par une épreuve, quand nous sommes tristes, est-ce que nous demandons à Dieu, permets-moi, mon sauveur, mon père, permets-moi de croître par ces choses qui arrivent dans ma vie. Donne-moi la force de persévérer, mais permette à moi que ça soit pour ta gloire. Permette à moi que ça soit quelque chose que j'utilise pour croître, pour te faire plaisir, pour te donner gloire. Donc, c'est comme ça que nous demandons de l'aide, mais en même temps, nous demandons quelque chose d'assez précis, c'est que ces choses qui nous arrivent servent de quelque chose de bien. Et des fois, vous comprenez que dans la vie, nous pouvons avoir des opportunités ratées. C'est la même chose avec les épreuves. Nous pouvons avoir des échecs lorsque nous passons par certaines épreuves. D'autres épreuves peuvent servir pour notre croissance spirituelle. Et souvent, la différence joue sur notre réponse et comment nous persévérons ou comment notre perspective change vis-à-vis de vivre par la foi. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit en nous, de sa puissance en nous. Et nous essayons de développer la foi qu'avait Jésus-Christ. Il savait que les choses qui se passaient dans sa vie étaient entre les mains du Père. cette fois, nous devrions la lui demander régulièrement. Nous ne devons pas supposer qu'il va nous l'accorder si nous ne lui demandons pas. Dieu nous observe pour savoir à quel point nous désirons avoir une foi plus forte. Dieu augmentera notre foi si nous le lui demandons et si nous cherchons diligemment à nous rapprocher de lui dans la prière et l'étude de sa parole. Donc, ça ne s'arrête pas là non plus, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une répétition vaine de dire « augmente ma foi ». Donne-moi plus de foi. C'est quelque chose, comme nous discutons depuis le début de ce serment, c'est un projet de construction, c'est quelque chose qui est construit. C'est une vie construite avec cette foi à la base. Je trouve intéressant que l'apôtre Pierre nous révèle comment construire même sur cette foi. De Pierre, chapitre 1, on l'appelle de temps en temps un certain enchaînement ou une certaine échelle qui commence avec la foi. Et après, on bâtit là-dessus. C'est très intéressant à considérer combien de fois Pierre mentionne ici l'idée de joindre quelque chose à notre foi. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 2. C'est un passage assez long, mais chaque élément de ce passage pourrait servir d'une étude biblique, parce que chaque élément, c'est un sujet de méditation, c'est un sujet de réflexion personnelle, d'auto-examination. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, encore une fois, nous avons un exemple de ce résultat, de ce que nous attendons, c'est de participer à la nature divine. En fuyant, je continue, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et puis, verset 5. À cause de là, cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques nous a dit, il faut que notre foi soit vivante. Pierre nous dit, voici comment faire en sorte que la foi soit vivante. Il faut ajouter à cette foi ces choses, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, ce sont des indicateurs d'une foi vivante. Tous ces éléments travaillent ensemble. Ils ne sont pas indépendants les uns les autres, mais ils font partie de cette foi vivante. Le juste vivra par sa foi. Intéressant, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire il vit encore cette ancienne vie. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Il y a une application personnelle dans ce processus. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Tout est lié à l'avenir. Tout est lié à ces promesses de l'avenir qui nous concernent tous. À nous de commencer avec cette expression assez simple, de vivre par la foi, de comprendre ce que c'est notre foi, de comprendre la parole de Dieu, de l'étudier, de développer de bonnes œuvres d'après la parole de Dieu, et de construire, justement, comme Pierre nous a dit, de construire, et comme Jacques nous a dit, de faire en sorte que cette foi elle-même soit vivante, pas morte, mais vivante. Nous avons vu que l'expression « le juste vivra par la foi » n'a pas été inventée par l'apôtre Paul. Nous avons fait le résumé de ce que veut dire le mot « juste » dans le contexte des écrits de Paul. Est-ce que nous allons poursuivre une augmentation de notre foi dans les mois et les années à venir? Le secret de Paul n'est pas en effet un secret du tout. La foi vivante a joué un rôle important dans la vie et de cet apôtre de Dieu, l'apôtre Paul. Alors, quel a été le résultat final pour Paul? Il nous dit dans sa seconde lettre à Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, 2 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul explique ceci. Et c'est cette vision du long terme que Paul a gardé à l'esprit. Paul a écrit 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, il y a pour moi la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là. » Et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition. Une partie importante, frères et sœurs, de la préparation de Paul pour cet événement capital a été de vivre sa vie par la foi vivante. Nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Vivre la vie par la foi vivante.